On a deux thèmes. Pardon. Du coup, aujourd'hui, on a décidé de vous proposer deux thèmes principaux. Donc, on va découper peut-être en trois quarts d'heure, pour qu'on ait quand même un petit temps de déclusion à la fin. Donc, le premier thème, c'est l'arbre de vie. Je me permets donc, si tu es OK, Sophie, de repositionner l'arbre de vie dans la chronologie des événements du bilan. On a fait le choix avec Sophie de faire l'arbre de vie à la fin du bilan, hein, d'autres le font autrement. L'objectif pour nous, c'était de le faire à la fin pour faire la synthèse, célébrer finalement tout le parcours du bilan de compétences et permettre après derrière d'avoir une vue, on va dire, synthétique de tout ce qui est important pour le bénéficiaire qu'on accompagne. Donc voilà, et il intervient au moment du rendez-vous 7. Donc l'objectif aujourd'hui, là, par rapport à cette thématique, Sophie, tu complètes si j'oublie des choses, mais c'est vraiment d'échanger sur vos pratiques pour ceux qui l'ont déjà fait, parce que certains sont peut-être encore à cette étape-là. Peut-être aussi de partager ce qui a été facile pour vous, difficile pour vous dans l'animation. Sophie et moi, on est toutes les deux formées aux pratiques narratives, hein, donc c'est vrai qu'on est praticienne narrative. Et par ailleurs, je ne sais pas si tu avais fait un atelier, Sophie, sur l'arbre de vie, mais il existe des ateliers arbre de vie dédiés.
Avec Dina Scherrer,
Voilà, notamment. Ah bah oui, c'est vrai, je suis bête. On devait le faire ensemble et puis finalement on l'a pas fait ensemble. Et donc il y a aussi des ateliers dédiés à l'arbre de vie, mais donc là aujourd'hui c'est pas un atelier, c'est plutôt échanger sur nos pratiques. Néanmoins, si à un moment ou à un autre vous avez des besoins spécifiques, on pourra imaginer un atelier ou que vous puissiez faire des ateliers, on pourra vous donner les références. Voilà. Voilà un peu le programme pour cette première thématique. Alors, est-ce que vous voulez partager un peu vos différentes pratiques ou vous préférez peut-être que nous partagions, Sophie et moi, comment on fait? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est le plus OK pour vous?
Position haute sur le cadre, on va partager d'abord Marie.
Allez.
Bon, allez, je vais bien commencer Marie, comme ça, voilà.
Vas-y, comme ça alterne.
C'est
Très bien.
ça. Alors, en fait, l'arbre de vie, je l'ai fait de deux manières différentes dans ma vie de trajectoire. Donc, je trouve que ça peut être aussi intéressant de les partager. Avant d'avoir fait l'atelier avec Dina Scherrer, je demandais au bénéficiaire de faire son arbre de vie à la maison entre le rendez-vous 6 et le rendez-vous 7. Il me le présentait au rendez-vous 7 et on en parlait et éventuellement on l'agrémentait. Et depuis un peu plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi, je le fais en séance, c'est-à-dire voilà, et je le fais en séance en fonction de ce que je ressens chez le bénéficiaire. Soit je l'invite à regarder les questions avant pour peut-être poser ses idées et qu'il soit plus confort au moment de la réalisation de l'arbre. Ça, c'est pour les personnes que je sens peut-être un peu plus en fragilité de l'instant présent et de l'inconnu et de la spontanéité. Mais dans la plupart du temps, je dis aux personnes de ne rien préparer du tout et de venir vraiment en surprise un petit peu voilà, sur cet arbre. D'un point de vue un peu plus matériel, je mets un fond musical, toujours, quand on fait l'arbre. Donc je mets une petite musique. Douce, enfin, ou un petit peu entraînante, mais un fond, hein, une musique, alors c'est un peu des détails, mais qui n'a pas de parole, hein, pour pas être pollué par la compréhension de paroles, voilà, un petit fond musical. J'ai des grandes feuilles de papier canson, donc des feuilles à trois en papier canson, des feutres, des crayons de couleur, des gommettes. des crayons billes à papier, enfin voilà, je fais comme à l'école maternelle, quoi. Je sors un peu tous les crayons. Et voilà, et j'essaye vraiment de faire que ce moment soit un moment un peu ludique. Si la personne, elle préfère être debout, elle se met debout. Si elle préfère être assise, elle se met assise. Enfin, vraiment, là, c'est un peu libre. Et il y a quelque chose qui est important. Et ça que j'avais perçu l'importance, alors dans la formation des narratives, mais encore plus après dans l'atelier avec Dina, c'est de demander aux bénéficiaires de dessiner la silhouette de l'arbre en entier, avant même de commencer à le compléter. C'est-à-dire, je lui dis, vous allez dessiner une silhouette d'arbre, et cet arbre, il doit avoir des racines, un tronc, des branches, des feuilles et des fruits. Et vous devrez écrire dans chacune des parties. Ça, c'est pour qu'il ait suffisamment d'indications pour faire des feuilles assez grandes, des fruits assez grands. Alors, quand c'est trop petit, après, ils écrivent autour, hein, c'est pas très grave, mais voilà. Et quand ils sont, alors certains, voilà, c'est très naturel, et hop, ils se mettent à dessiner, puis d'autres, ils regardent, bah, oui, mais alors, il faut combien de racines, combien de branches? Et là, surtout, vous ne répondez pas. Vous dites, mais voilà, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui faites l'arbre qui vous ressemble, qui vous plaît. Et par expérience, c'est hyper intéressant, en fait, parce qu'en fonction du nombre de racines ou de branches qu'ils ont mises, eh ben en fait, ils vont chercher à les compléter. En fait, ils aiment pas avoir une racine vide ou une branche vide. Et donc, le fait de leur demander de dessiner la silhouette avant même qu'ils aient idée des questions qu'on va leur poser, fait qu'ils sont pas dans la réduction. C'est-à-dire que si vous commencez par d'abord dire, alors, dans les racines, on va mettre ça, donc maintenant, allez-y, dessinez les racines. Ils vont paramétrer les racines en fonction de ce qu'ils ont dans la tête, et donc ils risquent de réduire. Alors que s'ils dessinent d'abord les racines et après vous leur dites, ben voilà dans les racines ce qu'il faut mettre, ben quand ils ont fait 10 racines, voilà, ils sont obligés d'aller voilà, d'aller creuser, d'aller réfléchir. Voilà, ça c'est un peu sur. Mais dessiner la silhouette de l'arbre en entier, ça c'est une préconisation des narratives. C'est plus qu'une préconisation, c'est le modus operandi de l'arbre. Le bénéficiaire ne doit pas dessiner les parties les unes après les autres. Il doit d'abord dessiner son arbre et après il le complète. Certains, alors là c'est pour mettre à l'aise, certains n'osent pas, c'est des petits détails, hein, mais ça compte aussi pour que le confort du bénéficiaire. Ils ne sont pas forcément très à l'aise à y aller directement au feutre, donc vous les voyez. Et moi, je leur dis, bah, vous pouvez d'abord le dessiner au crayon à papier, puis après, une fois que vous le trouverez joli et sympathique, on pourra prendre un temps pour que vous le passiez en couleur. Enfin, voilà. Donc ça, c'est sur tout le côté, le volet un peu plus logistique, organisation, mise en confort du bénéficiaire. Donc déjà, sur ce point-là, on peut peut-être partager avant de parler du contenu. Marie, tu fais, j'imagine.
Ben, je procédais comme toi au départ. Je demandais, en fait, moi, je travaille sur techniquement plutôt des papiers. Je prends du papier craft en fait parce que je trouve que c'est un support qui représente bien l'arbre et la nature. Mais après, voilà, le support, peu importe. Et avant, je faisais comme toi, Sophie, c'est-à-dire que je demandais aux gens de le préparer à l'avance et d'arriver en séance pour me le présenter. Et ça, j'ai totalement arrêté. Moi, je pense qu'effectivement, le fait d'être formé et à l'arbre de vie et plus globalement aux pratiques narratives m'a permis de changer cette façon de procéder. Moi, je propose, quand j'envoie le carnet 6, aux gens de lire les questions s'ils veulent, mais je leur propose seulement. En fait, pour moi, le carnet 6, il représente le travail qu'il y a à faire entre le rendez-vous 7 et le rendez-vous 8. Donc, en fait, s'ils ne le font pas pour le rendez-vous 7, finalement, ce n'est pas si grave. Moi, j'aime bien finalement aussi consacrer les 2 heures à l'arbre de vie parce que c'est vraiment un moment de célébration, c'est un moment de surprise. Alors, moi, je pense que 90% des cas, il y a des choses qui sortent que j'ai jamais entendues. Au moment où je guide, notamment sur des questions, quel métier rêviez-vous de faire quand vous étiez petit? Alors là, il y a des trucs incroyables qui sortent des fois. Voilà, quelles sont vos références? Enfin, quelles sont par exemple les personnes qui vous inspirent ou vos héros qui vous inspirent? Enfin, bref, il y a des fois des choses très très nouvelles qui sortent. Donc, je partage complètement avec Sophie. J'évite de demander à ce que la personne se prépare de trop parce que sinon, c'est un peu téléguidé. Alors qu'en fait, c'est un exercice très spontané et dans tous les cas quand en séance quand un bénéficiaire me dit ah je sais pas quoi mettre bon je lui dis de toute façon rassurez-vous j'ai mes notes j'ai entendu tout ce que vous m'avez dit si vous avez vraiment un trou je vous aiderai mais on fait le travail on fait le travail spontané. Et puis, donc pareil, hein, moi je procède désormais avec le dessin, enfin le fait que les gens dessinent dès le début leur arbre. Alors moi j'ai souvent la réponse de « mais je ne sais pas dessiner ». Alors je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, moi j'ai un dessin petit d'un arbre de vie, donc sur un format de type A4 que j'ai fait. Et je leur dis, bah voilà, en fait, moi je l'ai fait, moi je sais pas dessiner non plus. Alors je les mets tout de suite à l'aise. La seule chose que je sais faire, c'est des traits. Et donc j'ai un dessin d'arbre composé de traits, ce qui permet de désacraliser aussi le fait que c'est un dessin. Et non, c'est pas un dessin. Voilà. Donc je leur demande s'ils ont besoin d'un modèle. Et quand ils ont besoin d'un modèle, je leur mets mon dessin sous les yeux. Voilà. Pareil, hein, j'ai une playlist aussi. Moi, je trouve que c'est très agréable. Moi, j'ai carrément fait une playlist Arbre de vie. Mais ça, c'est le. On va dire, c'est le. Le pas le formatage, c'est pas très joli, mais l'habitude avec Points of View. Voilà, j'ai des papiers, des crayons, des gommettes, des post-it, enfin j'ai un peu de tout. Voilà, et j'ai aussi le livre que Dina Scherrer a écrit sur l'arbre de vie. Donc, alors je sais pas s'il est de nouveau édité parce qu'il a été longtemps en rupture.
Ouais, je sais pas.
C'est une jolie acquisition parce qu'il n'y a pas que l'arbre de vie professionnel, mais il y a aussi l'arbre de vie de professionnel. Et je trouve que, enfin, moi, je travaille tout le temps qu'avec ça. C'est vrai que le support qu'on vous a donné dans le carnet, c'est la liste des questions. Mais ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'il y a à chaque fois des remises dans le contexte. En fait, l'arbre, c'est vraiment une symbolique dans les pratiques narratives. Et donc, il faut aussi remettre cette symbolique-là dans l'accompagnement, dans le déroulé, de mon point de vue. Et donc, moi, en tout cas, ça m'aide parce que j'ai pas la mémoire de toute la symbolique à chaque fois, même si, enfin, de la façon de l'amener. Voilà. Donc, moi, c'est un.
Est-ce que tu peux juste si tu l'as le montrer, parce qu'elle en a fait deux sur l'arbre de vie, je pense que tu parles pas de celui de coacher avec l'arbre de vie, tu parles de celui de l'arbre de vie, le dernier qu'elle a fait là. Ouais.
Je vais vous le retrouver sur Internet parce que je ne l'ai pas avec moi là, mais oui, je vais vous montrer l'image, je vous la partagerai dans comment
Chat.
dire, dans le chat, exactement. Voilà. Et donc, moi, je conduis donc l'arbre de vie avec les questions hein, narratives. Pareil, hein, étape par étape. Donc, pour rappel, les racines, c'est plutôt la représentation, la symbolique du passé, le sol, le tronc. Le présent, la force de l'arbre, les ressources qui donnent de l'énergie pour se projeter en haut dans la cime avec les branches, les feuilles, les fruits, les fleurs éventuellement sur les projets du futur. Voilà. Donc moi, ça, c'est vraiment comme ça que je le fais. À la fin de l'arbre, je clôture toujours avec le choix d'une photo Faces. Pour ceux qui connaissent Faces, c'est un des outils de Points of View. Je demande à ce que, enfin, j'invite la personne, si elle le souhaite, à choisir une photo qui va représenter bah, finalement son moi potentiel, c'est-à-dire lui dans l'arbre, enfin lui ou elle d'ailleurs, dans l'arbre pour donc voilà, si c'est Sophie, bah, Sophie, t'es où dans l'arbre avec cette photo et en quoi cette photo vient-elle illustrer la Sophie dans cet arbre? Voilà, donc je clôture souvent avec cette question-là. Et je clôture aussi avec qu'est-ce qui vous a surpris donc dans cet arbre, qu'est-ce que vous avez appris de plus que ce que vous n'aviez pas découvert. Donc souvent les gens justement quand ils m'ont parlé de quelque chose de nouveau, ils se reconnectent à ça, donc en me disant ah tiens j'avais oublié ça, c'était un joli moment. C'est souvent des moments assez émouvants où ça peut être aussi des personnes auxquelles ils se sont reconnectés qu'ils avaient complètement oublié. Et même s'ils ont fait le club de vie professionnel dans l'exercice précédent, ben, des fois, il y a des nouvelles personnes qui sortent. Et je leur demande aussi une dernière question. À qui est-ce que vous avez envie de partager cet arbre? Voilà. Je fais une photo. Bon, mais ça, je pense que vous le savez, puisqu'on la met dans la. Voilà. Et je leur demande toujours leur autorisation pour garder cette photo aussi, pour pouvoir montrer des exemples à des gens, sachant qu'en général, la photo, on ne voit pas le détail de toute façon. Donc, la plupart des gens sont d'accord. Voilà.
Et avant de prendre la photo, moi, Marie, je leur demande de mettre la date du jour sur
Oui,
l'arbre.
tout à fait. De dater, toujours. Ouais, effectivement, de dater.
Pour
Voilà.
que cet arbre, il soit ancré dans, bah, dans le jour,
Tout à fait.
en présent, quoi.
Tout à fait. Oui. Donc
Voilà.
voilà, ça donne. Enfin, c'est grosso modo quand même ce qu'on fait à peu près la même chose, hein, Sophie, je crois. Voilà, moi,
Je mets
peut-être
un
la
petit
seule
oiseau
différence.
parfois. Je mets un petit oiseau. Il peut m'arriver de quand je sens que la personne est vraiment à l'aise avec l'exercice, je leur propose de mettre un oiseau sur une branche et cet oiseau soit il chante une chanson, c'est-à-dire qu'il met une chanson qui symboliserait un peu comme un espèce de mantra en fait. Ou alors il dit quelque chose qui viendrait dans une bulle, qui viendrait un peu être la maxime, un peu, ça rejoint le faithies, hein, la maxime de ce vers quoi la personne a envie d'aller, en fait. Et donc parfois, ils vont chercher une chanson qui parle de ça, en fait, qui parle de ce qu'ils ont pu vivre. Dans la réalisation de cet arbre ou dans le fait de se projeter sur les branches. Enfin voilà, ça peut être un peu ludique aussi parfois de finir avec ça. Voilà, mais sinon oui, on fait de la même manière, c'est clair. Et souvent les gens qui disent je ne sais pas dessiner, donc moi aussi je fais comme Marie. En fait, quand j'ai fait l'atelier de Dina Scherrer, j'ai fait mon arbre de vie, donc je l'avais fait en format grand et que j'ai pris en photo après en plus petit. Moi, je sais pas dessiner non plus et donc je leur montre et en fait ils voient que bah oui en fait c'est simple. Enfin, ça peut être très simple et ça fait descendre cette espèce d'enjeu de ah faut que je dessine un arbre. Et d'ailleurs moi souvent je dis pas il faut dessiner un arbre, je dis il faut représenter un arbre. Et comme ça laisse une liberté de représenter l'arbre comme ils se l'entendent. Je vais pas spoiler Sandrine, mais si tu m'y autorises, quand on est arrivé à cette, tu m'y autorises, Sandrine? Ouais. J'ai accompagné Sandrine en bilan de compétences, en fait, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et quand on est arrivé à cette étape, c'était compliqué pour Sandrine de dessiner un arbre. Et en fait, elle a représenté un arbre d'une manière très différente. Mais il y avait des racines, il y avait un tronc, il y avait des branches. Voilà, et c'était sa représentation, en tout cas, qui lui était confortable au moment où on a fait l'exercice. Et donc, c'était OK. Voilà, ça peut. J'ai eu un sapin de Noël une fois, parce que c'était la période des fêtes. Et la personne a dit, oh, est-ce que je peux faire un sapin de Noël? J'adore Noël. Bah oui, bien sûr. Et voilà, et donc les feuilles, c'était des guirlandes et les fruits, c'était les boules de Noël. Enfin, on l'a représenté autrement et c'était très. Voilà. En fait, c'est ce qui est confortable. Et je trouve que de dire vous allez représenter un arbre, c'est moins engageant que vous allez dessiner un arbre. Parce que dans la représentation, il y a un espace de liberté qui s'ouvre. De finalement faire un peu comme ils le sentent et que s'ils ont envie de faire un arbre qui ressemble pas à un arbre, en fait, on s'en fiche. Enfin, voilà, c'est voilà. Peut-être une précision par rapport à ça. Après, dans le questionnement, ça aussi, c'était venu, moi, beaucoup de Dina. Alors, il y a la liste de questions, mais n'hésitez pas, peut-être à travers vos lectures, à enrichir cette liste de questions et à les poser de manière un peu hypnotique et continue, c'est-à-dire ne laissez pas de blanc, enfin un peu, essayez de pas trop laisser de blanc. Et alors moi je me suis construit, maintenant je les ai en tête, hein, Mais je me suis construit des listes de questions. Et en fait, je les boucle. Et je parle pas du tout avec cette tonalité-là. Je parle tout bas. Je parle assez bas. Quand je fais l'arbre de vie, c'est assez feutré. Mais par contre, je vais de manière assez itérative poser les questions en laissant des silences entre les questions, mais en laissant pas trop de. En fait, c'est pas un moment, je pose la question, puis après, je croise les bras, et puis j'attends que la personne, elle fasse. Je l'accompagne dans ce qui permet de poser des questions de manière différente, d'utiliser des mots différents. Et donc, ben, la personne, elle va peut-être capter mieux à la troisième boucle parce que vous aurez utilisé un mot différent, vous aurez tourné la question peut-être un peu d'une autre manière. Voilà. Et ça c'est clair que Sadina nous l'avait souligné quand j'ai fait l'atelier. Ça a un effet en fait un peu hypnotique. Ça peut mettre dans un état de conscience un peu modifié d'entendre les questions en boucle comme ça. Et donc ça fait émerger Wagel.
Ouais, excuse-moi, ouais, je rebondis parce que effectivement, poser les questions en boucle comme ça, par contre, parfois, il y a des bénéficiaires en fait qui ont comme un besoin en fait de traiter une question par une, enfin en disant ah oui, mais là, ça va trop vite ou tu vois ce que je veux dire?
Il faut aussi être dans l'écoute de ce qui se passe pour le client, bien sûr. Tout à fait. Sur des questions peut-être un peu plus, alors par rapport à des choses qui peuvent sortir un peu de la liste de questions, qu'est-ce qui est sur le carnet. Quand par exemple ils ont fini le tronc. Donc ça, c'est aussi dans l'atelier de Dina. Quand ils ont fini le tronc avec les compétences, les talents, leur force, enfin voilà, ce qui constitue vraiment ce qui les a fait grandir, je leur demande ensuite de choisir un mot soit parmi ceux qui sont déjà écrits sur le tronc, soit un nouveau mot qui pourrait être vraiment le mieux les représenter. Ce que je leur dis, c'est parmi tous les mots que vous avez déjà écrits, ou un nouveau mot, si vous ne deviez en choisir qu'un pour parler de vous, ce serait lequel? Et une fois qu'ils l'ont choisi, je leur demande de le représenter d'une manière un peu scintillante. Et donc souvent, je leur fais réécrire en haut du tronc au moment où les branches partent. Et donc ils le réécrivent et puis voilà, je leur dis comment vous pourriez le mettre en valeur ce mot. Alors parfois ils l'entourent, parfois ils font des petites étoiles autour, voilà. Ça, c'est Dina nous avait fait faire ça, j'avais trouvé que c'était assez intéressant pour vraiment. C'est quoi leur coloration principale en fait? Quel est l'élément s'ils devaient parler d'eux en un seul mot, ça serait lequel?
Dans le bouquin là, dont je vous ai envoyé la page de couverture dans le chat, à ce moment-là, en fait, dans les questions qui sont proposées, effectivement, que propose Dina, c'est en relisant l'ensemble de ce que vous venez de noter sur le sol et sur le tronc, qu'est-ce que ça vient dire de vous, de l'être, qu'est-ce que ça vient dire fondamentalement de l'être que vous êtes? De votre singularité, de votre valeur ajoutée. Et l'invitation, c'est même, là, c'est pas qu'un mot, tu vois, Sophie, dans le carnet, je trouve que c'est carrément même une phrase en disant je suis. Effectivement, c'est un moment qui est assez. C'est un moment scintillant, souvent. Ils se disent oh, mais dis donc, je peux dire ça de moi. Bah oui, tu peux dire ça de toi. Donc, c'est quand même un joli moment.
Voilà.
Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit tour de vos pratiques, de ce qu'on n'a pas dit, de questionnements, de difficultés, ou de bonnes pratiques, de réussite, enfin voilà, tout ce que vous. On fait un tour.
Moi, j'ai juste une différence par rapport à vous, c'est que je leur demande de choisir une musique dans laquelle ils sont bien et qu'ils ont envie d'écouter pour faire cet arbre. Et donc, j'ai eu du Elvis Presley, j'ai eu du Jamiroquai. Et je me rends compte que, en fait, ils sont dans leur élément. Et pour une bénéficiaire, elle était vraiment taiseuse. Ah bah là, bah, c'est complètement lâché. Bah tiens, vous faites quoi pendant les vacances? Bah, moi, je vais faire ça. Puis elle part dans son truc et elle dessine son arbre et elle imagine. Et j'ai trouvé que c'était bénéfique, c'était positif.
Bonne idée, effectivement. Vas-y, Julie.
Moi, je prends un temps. Déjà, je leur dis de faire un gros tronc. Souvent, il est trop petit. Et il y a un moment quand ils ont dessiné leur arbre, je prends le dessin et je leur montre, je me mets de loin et je leur demande de regarder aussi différemment et qu'est-ce que ils en disent en fait. Et souvent ils sont fiers ou alors ils voient une forme, etc. Et c'est là où je leur demande après, donc de demander qu'est-ce que ça dit d'eux du coup à ce moment-là. Et c'est là où on cherche un titre aussi, quel titre ils donnent à leur arbre. Dans l'ensemble, je fais un peu la même chose que.
Et ça, tu fais ça à la fin, le titre? Ok, oui. Oui, moi, quand par exemple, du coup, ça fait écho à la photo faces, parce qu'en fait, moi, donc, je le fais à la fin. Pendant qu'ils choisissent la photo faces, j'accroche l'arbre sur un de mes murs et je
Avec
leur
de la
montre comme
pâte à fixe aussi, moi, tout à
voilà,
fait.
et on se met debout à la fin et ils vont coller la photo. Ben, c'est un peu comme on l'avait fait quand on avait travaillé sur le coaching solidaire. Ils vont coller la photo à l'endroit où ils ont décidé et on prend du recul, ils regardent leur arbre et c'est toujours très beau.
Ouais, la prise de recul là est chouette.
Mais du coup, Marie, avec la photo, tu demandes aussi de donner un titre. Enfin,
Non, du
tu
coup,
fais
moi,
quoi?
je fais pas effectivement cette étape
D'accord.
de titre, puisqu'il y a la photo. Donc après, tu choisis,
Okay.
mais peut-être ça peut être cumulé. Après, il ne faut pas non plus trop alourdir. Mais moi, je pense que les deux pratiques sont très bien, en fait. Hein. Tout dépend du matériel déjà que tu as à ta disposition. Parce que moi, j'ai Faces, mais si tu n'as pas Faces, déjà, voilà. Puis après, tu peux ne pas avoir envie de le faire. Tu peux préférer donner un titre. Hein, mais ça, voilà.
Okay. Que quelqu'un d'autre a envie de partager?
Moi, je veux bien. Du coup, j'ai finalisé que deux, trois bilans pour l'instant. Je suis arrivée à chaque fois à la bourre complètement sur la fin. Donc l'arbre de vie, en fait, je l'ai pas réussi à le faire au rendez-vous 7 pour l'instant. Je l'ai fait au rendez-vous 8, du coup. Donc forcément, j'ai pas 2 heures devant moi. J'en ai une au mieux. Et donc, enfin voilà, pour l'instant, je suis pas complètement à l'aise avec. Je suis en formation pratique narrative et ça va être le prochain module où je vais voir l'arbre de vie avec Dina. Donc, je pense que ça va m'aider. Je commence à intégrer plus les différentes étapes de l'arbre. Donc, ça, c'est aussi ça devient plus confortable. Après, néanmoins, effectivement, on arrive toujours. Enfin, moi, je trouve que c'est un joli moment de synthèse et j'avais été surprise au moment de la formation à la méthode trajectoire de trouver l'arbre de vie à la fin. Et je trouve que c'est vraiment un emplacement, moi, qui me convient très, très bien. En synthèse, je trouve que c'est vraiment un apport qui est assez merveilleux. J'aime bien. Récemment, il y a quelqu'un qui a ajouté un soleil sur son dessin, donc je trouvais ça super chouette de pouvoir en faire quelque chose. Et j'aime bien aussi proposer, ça c'est d'après un livre de David Denborough, proposer de mettre un compost. Parce que du coup, il y a des fois, il y a des choses dans le parcours qu'on a vécues, mais qu'on n'a pas envie de mettre dans les racines. Et du coup, ça permet de faire apparaître voilà, des expériences sur lesquelles on n'a pas forcément envie de puiser, en tout cas telles qu'elles ont été, mais telles qu'elles pourraient nourrir l'arbre une fois transformé. Et du coup, je trouvais ça sympa comme apport. Et enfin voilà, c'est pas systématique, hein, mais des fois, quand il y a quelque chose qui coince un peu ou la personne sait pas trop où placer une expérience ou quoi, bah je propose ça et ça marche plutôt bien. Voilà ce que je pouvais partager. Et aussi, ce livre que tu nous as partagé, là, Marie, je l'ai cherché désespérément. Alors, on le trouve en occasion, à plusieurs centaines d'euros, mais il n'a pas été, réédité.
Il n'a pas été réédité.
Non, c'est pas celui-là qui a été réédité.
Et je viens de regarder, pour tout vous dire, il fait 270 euros à la Fnac. Ah bah c'est l'occasion.
Non, mais
Il
c'est
existe,
l'occasion.
ceci étant, il existe en téléchargement quand on a un compte.
Ouais.
Et donc, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut être intéressant. Alors, moi, j'aime bien le papier, mais il est à 10,99 € très exactement en téléchargement immédiat via la Fnac. Donc, je pense que c'est peut-être moi l'option que je vais choisir.
Bah oui, parce qu'après, tu peux t'imprimer des pages. Bon, après, moi, je suis pas partisane de faire des photocopies des pages. Parce que voilà, mais c'est vrai qu'en e-book, tu t'imprimes les
Voilà.
pages que tu veux. Après, quand tu fais la formation, elle te donne aussi ces supports-là.
Ouais.
T'es pas obligé d'avoir le bouquin pour dans sa globalité, pour en tout cas pour l'activité du bilan de compétences, avoir juste les pages qui concernent le bilan, enfin l'arbre de vie professionnel, ça suffit largement. Hein, et t'as 5 pages, je crois.
Non, je pense qu'effectivement, je vais prendre cette option-là. Vous avez fait du teasing, Sophie Marie.
Après, peut-être en bibliothèque ou médiathèque, il y est peut-être, je sais
Ouais,
pas, hein,
peut-être.
mais.
Ouais. Bah, la difficulté, en fait, sincèrement, là, je fais une petite parenthèse, c'est les droits d'auteur en pratique narrative. Pour ceux qui connaissent, on voit bien qu'il y a énormément de générosité. On aurait pu vous dire on va faire la photocopie, mais en fait c'est pas OK parce que c'est du matériau que Dina elle travaille depuis des années. Voilà, c'est sûr que tu vois Stéphanie, si tu peux télécharger 10 euros, après tu te les imprimes, c'est mieux. Voilà, par
Oui, rapport aux
non,
droits
mais
d'auteur
carrément,
aujourd'hui,
le
bon, c'est
principe, on est
tellement,
d'accord, bien
tout est
sûr.
tellement en difficulté que
Voilà.
si on peut respecter ça, bon, voilà.
Puis je pense que quand on n'a pas eu les formations, quand bien même on aurait une appréhension hein, de la démarche narrative, là, typiquement, je pense que ça va être un bouquin de vacances, quoi. Parce que moi, je fais l'atelier 6 en août. Bon, j'ai un rendez-vous de mentorat avec Gaëlle bientôt et on va en échanger. Donc, c'est super. Le rendez-vous, oui, c'est le rendez-vous 6, là. Et du coup, bah, le fait de me nourrir de cette lecture, bah, je pense que ça va accompagner ma pratique forcément dès le premier entretien, en fait, en
À
question.
fait. Bah, il est très très aidant, moi je trouve ce parce qu'en fait il est très pratique. Au pratique, c'est des ateliers en fait, hein. Donc, contrairement au bouquin coaché avec l'arbre de
Les
vie,
arbres de
là, c'est
philo.
plutôt philosophie,
Théorique.
voilà, bon.
Il est plus théorique, ouais. Tout à fait.
Théorique, quoi.
Mais cela dit, il est aussi riche. Hein.
Très, ouais, tout à fait.
Il est aussi très, très, très riche.
Et pour faire du teasing juste au bout par rapport à ça, moi je me suis procuré pour cet été, non pas l'arbre de vie, mais le voyage de vie. Et là, je pense qu'on a quand même des choses qu'on va aller pouvoir puiser pour
Oui, je voulais l'acheter.
améliorer ou changer des choses dans notre accompagnement. On verra ce que ça donne. Mais ouais. Donc c'est un bouquin qui s'appelle Le voyage de vie, qui a été écrit par Dina Scherrer, son dernier bouquin. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, difficultés, au contraire, célébrations, pépites autour de l'arbre de vie? Moi, il y a une dernière chose que je fais quand même au moment où j'arrive à la fin de l'arbre, et ça c'est issu du fameux bouquin dont on vient de parler à l'instant, que tu vas récupérer, Stéphanie, c'est que on pose la question des tempêtes, parce que il n'y a pas, voilà, Marie, tu as rajouté le compost, mais il y a aussi la question des tempêtes, parce que en fait, et moi j'aime bien cette question, c'est une question qui a un côté, un principe de réalité. En fait, l'arbre de vie peut faire un peu rêver, en se disant ouais bah tout va être facile. Or on constate que les gens ils ont vécu beaucoup de tempêtes, en fait on vit tous des tempêtes, c'est-à-dire des difficultés diverses et variées dans les parcours professionnels. Et donc la question, il y a deux questions autour des tempêtes. Donc c'est à la fin, quand on a terminé les fruits, voilà, on dit bah voilà, dans la vie il y a des tempêtes, vous en avez vécu, et Déjà, quelle serait la tempête ou les tempêtes qui pourraient se mettre entre vous et votre projet ou vos envies? Alors très souvent, c'est la peur, le risque financier, pour des gens qui essayent de négocier une rupture conventionnelle, ne pas avoir la rupture conventionnelle, voilà, c'est ce type d'exemple. Enfin, il peut y en avoir plein, hein, de tempêtes. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que votre arbre de vie professionnelle que vous venez de réaliser vous apprend sur les ressources qui vont vous faire, qui font, pardon, que vous saurez faire face?
Tu peux répéter, Marie?
Oui, je suis allée vite, pardon. La deuxième question, c'est qu'est-ce que la réalisation de cet arbre de vie vous permet d'avoir. Enfin, attends, la phrase c'est qu'est-ce que votre arbre de vie vous apprend sur les ressources que vous avez en vous qui vous permettront de faire face si ces tempêtes arrivent? En d'autres termes, qu'est-ce que par rapport à toutes les ressources que vous avez identifiées, si ces tempête arrive, vous saurez faire face. Et là, juste pour faire le lien avec le carnet précédent, on est dans, si jamais il y a une vallée, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes remobilisé? Qu'est-ce qui vous a permis de donner le coup de pied pour remonter? Voilà, on peut faire, c'est vraiment très, très riche comme question. Et la plupart du temps, les gens, en fait, comment dire, ça libère aussi un peu les craintes éventuelles. Oui, Stéphanie.
Oui, j'ai juste une question. Marie, tu as parlé du compost. J'ai peut-être pas été assez attentive à un moment donné. Je crois que j'ai pas entendu cette histoire de compost.
Alors, c'est pas moi qui en ai parlé, c'est Marie Germont, mais du coup, je te laisse
Ah,
réexpliquer, Marie, ce
Marie.
que c'est.
Excuse-moi, Marie.
Non, pas de souci, au contraire, il faut clarifier.
C'est l'idée en fait d'ajouter une boîte en fait sur le sol dans laquelle la personne peut placer si elle le souhaite des expériences qui font partie de son parcours mais qu'elle n'a pas envie de mettre dans les racines parce qu'elle n'a pas envie que ça vienne alimenter son arbre en direct parce que c'était trop désagréable ou négatif ou enfin tout ce qu'on veut. Et donc, elle peut mettre cette expérience-là dans le compost en se disant, bah, en fait, cette expérience, elle va se décomposer, se transformer. Et du coup, elle va pouvoir apporter des nutriments, des choses qui, là, seront OK pour nourrir l'arbre, en fait. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça.
Ouais, super, oui.
Et
effectivement, là, derrière la symbolique du compost, c'est que, en fait, ça se recycle.
C'est la
C'est-à-dire qu'à travers une
transformation.
expérience difficile ou même une relation difficile, parce que moi, pour le coup, le compost, je l'avais utilisé dans le club de vie, on met des relations dans le compost, pas parce qu'en fait, on ne peut pas jeter des relations. Toute relation a un impact, enfin, si toute relation positive ou négative a un impact dans ton parcours de vie, en fait. Et donc, l'idée, c'est de la mettre au compost. Ça va mettre un temps à se décomposer. Et c'est le rythme de la décomposition est peut-être très long, peu importe, mais au moins, elle a sa place, en fait, cette relation ou cette expérience. Et voilà, donc c'est il faut, enfin, dans l'arbre de vie, il faut bien se connecter à la symbolique de tous les éléments en fait qu'on travaille. Je pense que c'est peut-être l'élément central de la guidance en fait quand vous êtes dans le travail avec le bénéficiaire, c'est vraiment de se dire le symbole du tronc, c'est ce qui me fait tenir, c'est la force, les racines. Je suis ancrée en fait, l'ancrage, le sol, c'est ce qui me nourrit, les branches, c'est petit au début, mais ça grandit au fur et à mesure, ça donne des feuilles, parce que les feuilles, on est entouré, ça habille l'arbre, enfin voilà, il faut vraiment utiliser tout, après avec votre vocabulaire, toute la symbolique de l'arbre. Et c'est vrai que de penser aux tempêtes, au compost, au soleil, au petit oiseau qui se pose sur une branche, ben, tout ça peut, en fonction de votre aisance ou de votre envie ou du bénéficiaire qui est en face de vous, ça va donner vraiment du corps à ce moment. Oui, Gaëlle.
Ouais, je voulais savoir comment vous faites, puisque bon, l'arbre de vie, on parle du projet aussi, enfin plan A, plan B, et justement, quand il y a ces fameux plan A, plan B, est-ce que le bénéficiaire, enfin j'ai eu la question là dernièrement, il me dit, bah oui, mais du coup, je fais référence à quel plan, sachant que voilà, le plan A étant l'idéal, mais On passe d'abord par rapport au plan B avant d'arriver au plan A parce que le plan A peut mettre plus de temps, enfin, etc. Comment vous réagissez, vous, par rapport à ça?
Moi, je ne parle pas de plan A ou plan B.
Mais si on te pose la question, du coup.
Oui, mais si tu ne l'évoques pas dans l'arbre, ils ne vont pas te poser la question. En fait, je
Mais
parle.
quand on parle de projet,
Ben,
tu
c'est.
vois?
Moi, j'utilise vraiment les questions vers quoi vous voulez aller, qu'est-ce que vous vous voyez faire, quels sont vos rêves, vos espoirs pour l'avenir, quelle mission vous avez envie de remplir, quel rôle vous avez envie d'incarner, quelles actions vous vous voyez réaliser, quels sont vos... Mais je parle pas de... En fait, je n'utilise pas le mot projet.
Ouais, mais tu vois, par rapport aux questions que tu viens de cibler, enfin,
Ouais.
derrière, en fait, c'est des questions que j'ai pu poser.
Ouais.
Et derrière, le bénéficiaire a fait directement les liens, effectivement, avec le projet plan A, plan B, tu
Oui.
vois.
Mais il peut très bien avoir une branche qui pourrait correspondre au plan A et une branche qui correspond au plan B, en fait. Et son
D'accord.
arbre, pour l'instant, il a ses deux branches. Et rien ne l'empêche d'aller visiter, tu vois, une branche.
Ok.
Et puis, à un moment, d'aller visiter une autre branche. Et
Ouais,
ça
ok.
peut arriver parfois d'avoir des... Moi, j'accompagne de temps en temps des projets et... C'est-à-dire des gens qui, par exemple, gardent un statut salarié et entreprennent. Ben, en fait, dans l'arbre, il va y avoir, il y a un moment, les deux axes vont être représentés par deux branches différentes.
D'accord.
Et OK. Et
OK.
parfois aussi, dans l'arbre, il y a une branche qui, même si on est sur un arbre professionnel, il peut y avoir aussi une branche qui parle un peu plus du perso. Et moi, je trouve que parfois, c'est très pertinent. Par exemple, ben, une jeune femme, ça peut être, j'ai eu le cas, fonder une famille. Parce que c'est essentiel aussi pour elle, dans son arbre et dans son équilibre pro-perso. Quand elle l'a mis, elle a hésité. Je dis, ah, elle me dit, c'est pas professionnel. Je dis, mais peu importe, en fait, si ça fait partie de vos rêves et vos espoirs et vos envies pour l'avenir, évidemment, il faut le mettre dans l'arbre, en fait.
Ok. Très bien, merci.
J'ai répondu, Gaëlle, à ta question?
Oui, bah oui, tout à fait.
Tu vois,
Ouais.
tu peux, les deux peuvent être présents.
Ouais.
Et ce qui est intéressant quand on les, en fait, quand on les, quand on les, comment dire, les guide pas sur le nombre de branches, c'est qu'en fait, après, il y a des espèces de enfin, c'est hyper intéressant de voir comment ils essayent, en fait, après, de compléter les branches. Et là, on voit des choses nouvelles s'ouvrir parfois.
Mais c'est vrai que moi, je faisais en fait étape par étape. Donc là, je trouve ça intéressant de faire d'abord la silhouette. Pour moi, c'était d'abord les racines, ensuite le sol, ensuite. Ouais, du coup, je vais pouvoir l'animer différemment cette session. Par contre, c'est vrai que moi, en général, je prends 1 heure, quoi. Je reste pas les 2 heures, ouais, on va dire ouais, 1 heure, 1 heure et quart. Mais ça va me permettre effectivement de préciser tout ça avec toutes les infos là. C'est bien. Merci.
Marie, tu avais une question peut-être? Tu voulais ajouter quelque chose?
Non, non, je voulais juste, j'ai rebaissé la main parce que Sophie a déjà dit, mais si, effectivement, l'idée, quand tu fais dessiner la silhouette d'abord, c'est que tu as plusieurs branches de toute façon. Et du coup, en fait, ça vient tout de suite répondre à la question de ton bénéficiaire sur quelle planche part. Ben, en fait, il y en a plusieurs et c'est OK, puisqu'il y a plusieurs branches et il peut y avoir plus de branches que de plan A, plan B, voilà quoi.
Bah après, ça n'empêche pas, en fait, même quand ils faisaient au fur et à mesure, enfin voilà, quand ils font au fur et à mesure, il y a toujours plusieurs branches, en fait.
Ouais. Et du coup, tu peux t'appuyer là-dessus pour répondre si jamais la question elle revenait une autre fois. Enfin, en tout cas, moi, je pense que c'est ce que je ferais. C'était
Ce qui est
juste ça.
intéressant aussi, c'est quand il dessine l'arbre, il dessine des branches, mais très souvent, il dessine des ramifications, en fait,
Oui.
aux branches. Et du coup, quand ils remplissent le projet, enfin, ou l'envie, ou l'action principale dans laquelle ils se voient là, sur cette branche-là, eh ben, derrière, avec les ramifications, ils vont compléter ça. Par exemple, ça peut être, je ne sais pas moi, accompagner l'autre, ça va être une branche. Puis après, ils vont être formés, transmettre, faire du bien. Et du coup, ça les oblige à développer aussi l'idée principale
de la branche principale sur laquelle ils ont mis une action ou une envie ou un rêve, un espoir, et leur demander de dessiner au fur et à mesure, ben, en fait, ça peut être bloquant. Enfin, pas bloquant, c'est pas bloquant, mais effectivement, ça empêche, je pense, moi, la
Peut-être, ouais,
open
peut-être.
mind. En tout cas, ça favorise l'exploration et l'élaboration d'avoir une silhouette. Et puis après, bon, ben, maintenant qu'elle est là, il faut.
Moi, j'ai eu un cas aussi pour les branches, où en fait, je lui dis, bah tiens, c'est étonnant, l'arbre n'a pas de branches. Et là, elle me dit, bah non, non, je les ai enfouis parce qu'en CM2, j'avais un instituteur qui m'avait dit que mon dessin était très moche parce que j'avais fait des branches. Et en fait, par ça, elle s'est rendue compte qu'en me le disant, elle me dit, en fait, je tiens trop compte de ce qu'on me dit. Et après, elle me dit, je me mets des limites. Mais elle l'a sortie tout seule, en fait.
Qui est intéressant aussi pour faire écho à ce que tu disais, Gaëlle, c'est que justement, on sort un peu de ce schéma plan A, plan B, grâce aux branches. Il n'y a pas d'hiérarchie. L'importance est équivalente. Alors effectivement, il y a des branches qui sont plus grosses que d'autres, mais des fois, les gens, comme ils ne savent pas ce qu'on va leur demander, ils font quatre branches identiques, d'une certaine façon, enfin on va dire équilibrées. Donc en fait, voilà, c'est vraiment intéressant. Et moi, ça arrive quelquefois que les plans soient pas clairs du tout au rendez-vous du début de l'arbre de vie, du rendez-vous 7. Et finalement, le rendez-vous 7, grâce aux branches, ça clarifie le plan d'action, comment je vais y aller, le pourquoi je veux y aller. Donc en fait, c'est quand même un moment assez puissant, hein, moi je trouve, l'arbre de vie, entre autres aussi par rapport à ça. Et du coup, la synthèse, ça vous aide aussi parce que vous avez tout le matériau au moment où vous allez faire la synthèse, là plutôt écrire de manière linéaire et ordonnancée, en fait il y a plein de choses qui ont été dites pendant l'arbre de vie, et ça vous simplifie aussi la tâche à vous deux, hein, bénéficiaires et vous-même, en fait. Et c'est vraiment, pour le coup, je trouve, très facilitant. On arrive, il est midi et demi, du coup, je ne sais pas s'il y a encore des remarques, des questions, des interrogations. Moi, je voulais juste partager une expérience qui n'a pas été exaltante. Bon, je vais terminer sur ça, même si la majeure partie des moments sont très exaltants, je trouve, enfin, en tout cas, exaltants, joyeux et émotionnellement forts. J'avais une personne qui était vraiment très seule. Et alors là, au moment des feuilles, ça a été dur, 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 je peux vous dire. Très, très dur. Parce que là, il y a une espèce de principe de réalité. Donc, c'est une personne qui avait perdu ses parents, qui n'avait pas d'amis, qui était complètement isolée. Mais en fait, elle n'est jamais isolée. Et ça, c'est pour le coup, quand vous le savez, il faut quand même le savoir. Enfin, de toute façon, vous aurez entendu à travers tous les précédents rendez-vous que c'est une personne qui est très isolée. En fait, une personne isolée, elle n'est jamais isolée. Et ça, pour le coup, il y a des vraiment. L'idée, c'est de la questionner sur ses loisirs, sur ses habitudes du quotidien. Donc, en fait, elle n'est pas isolée parce qu'elle va discuter avec la boulangère, elle va discuter. Bon, alors, ce n'est pas forcément des gens qui vont la soutenir à proprement parler, mais en tout cas, ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé donc une fois, donc ce n'était pas facile. Je dois vous dire que j'ai un petit peu ramé quand même. J'ai quand même fini par l'inviter en disant, mais vous êtes là en face de moi et moi je suis en train de vous accompagner. Donc je ne suis pas, je suis dans un moment de votre vie professionnelle, je suis dans votre club de vie professionnelle. Je suis pas votre cœur de votre, comment dire, je suis peut-être pas ce qu'on appelle le cercle d'or, mais à un moment donné, je suis passée dans votre vie professionnelle. Il faut remettre aussi dans le contexte que dans les feuilles, vous pouvez avoir des gens. Qui vont noter des gens du passé qui ne sont plus dans leur parcours professionnel aujourd'hui et ou personnel, des gens qui sont décédés. Donc ça, c'est aussi du coup un travail, il faut l'anticiper un petit peu si jamais ça vous arrive, de réflexion, de se dire c'est quoi les questions que je vais poser si la personne, elle m'a dit qu'elle était toute seule toute la journée, quoi.
On peut élargir à ce moment-là sur des personnes référentes, même des personnes célèbres ou des super-héros, enfin même des personnes fictives, hein, c'est-à-dire des personnes ou des personnes ou des personnages auxquels la personne pense, se réfère, admire, pour qu'elle se rende compte que oui, il y a forcément de la ressource. Et moi, il y a une question en narrative que j'adore quand les personnes sont peut-être aujourd'hui seules, où c'est qui ne serait pas étonné de vous voir aujourd'hui là où vous en êtes avec ce projet-là. Et quand on dit qui ne serait pas étonné, ça peut faire référence à des gens qui sont plus là aujourd'hui ou qui n'auraient pas été étonnés ou dans les yeux de qui vous vous êtes déjà senti fier. Enfin, donc la personne, c'est ce qu'on appelle le remembering, et en narrative, elle va aller puiser peut-être des ressources dans le passé. Et c'est très puissant, en fait, à ce moment-là.
Et alors après, de manière très pragmatique dans le présent, quelqu'un qui par exemple est seul et qui ne travaille pas, ça va être de lui dire, OK, bah, c'est pas vos amis, mais il y a France Travail, il y a peut-être la CCI, il y a peut-être machin. Enfin voilà, donc d'aller mettre des
Ça.
institutionnels, parce que dans tous les cas, c'est la réalité. Une personne qui par exemple cherche du travail ou veut créer une entreprise et se sent seule, elle va mettre comment dire, en musique, en tout cas, elle va forcément mobiliser des acteurs institutionnels. Donc voilà, c'est pas du coup c'est moins exaltant que des gens dans l'entourage personnel, des amis, des collègues, tout ça. Ça peut sembler être un peu moins exaltant, mais là le job c'est d'aller aider la personne à se connecter avec toutes les connexions qu'elle va devoir faire pour trouver du boulot. Voilà, si c'est des enquêtes métiers, c'est le nom des enquêtes métiers, enfin des personnes avec qui elle va faire les enquêtes métiers. Enfin voilà. Voilà, je voulais juste faire part de cette petite aventure des fois vers laquelle on peut se trouver confronté. On passe au deuxième sujet, s'il n'y a pas d'autres questions. Bon. Alors, le deuxième sujet. Est-ce que Sophie, tu peux relire précisément l'intitulé, parce que c'était par rapport au recueil de besoins qui avait été fait au moment du séminaire de l'année dernière? Il y a eu une question sur l'inclusion, enfin sur, on va dire plutôt
Oui, c'était sur.
l'accueil de la différence, non, c'est
Voilà,
pas ça.
l'idée, c'était comment, si je résume, ça avait été abordé effectivement au séminaire de l'année dernière. C'était comment on inclut la différence dans le process trajectoire. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est aussi d'échanger, est-ce que vous avez déjà accompagné des personnes qui était hors cadre. Alors pour différentes raisons, hein, parce que là on ne parle pas forcément de handicap, hein, on peut parler d'autres différences. Est-ce que ça vous a parfois posé souci? Comment vous l'avez réglé? Est-ce qu'il y a des choses dans la méthode qui peuvent être peut-être revisité pour favoriser cette inclusion. Voilà, l'idée, c'était. Alors, aujourd'hui, y a rien de construit particulièrement autour de ça. C'était vraiment voilà, d'échanger et peut-être, par rapport à ces échanges, faire émerger des éléments qui pourraient nous mettre au travail avec Marie, quoi. Voilà. C'est plus ça, la philosophie de ce moment d'échange. Oui, Gaëlle.
Bah, tu sais, comme je t'ai évoqué la situation au téléphone, alors je ne sais pas si effectivement je vais accompagner le bénéficiaire encore. C'est une personne en fait qui doit faire le ménage pour une commune et qui a des problématiques de dos qui est suivie par la médecine du travail. Il n'y a pas d'aménagement de poste possible, mais elle a déjà été accompagnée en fait dans le cadre de son travail par je pense, un psychologue du travail. Et donc dans ce cadre-là, elle a déjà pu faire des recherches, des enquêtes métiers. Et là, elle annonce, enfin en tous les cas pour le rendez-vous primo, hein, elle annonce un travail plutôt ciblé dans l'administratif. Alors bon, je sais pas si j'ai accompagné la personne, mais moi, ce que je pensais effectivement faire, c'est déjà
d'aller vraiment de creuser vraiment ce sujet. Donc peut-être que donc oui, il y a la méthode trajectoire, hein, bien évidemment, mais il y a peut-être des choses, des points sur lesquels bah, je vais passer peut-être un peu plus vite, effectivement, notamment les enquêtes métiers ou autres. Donc il va falloir là que j'adapte l'accompagnement, en tous les cas, si je l'accompagne, quoi. Voilà comment moi je voyais les choses dans tous les cas. C'est déjà de partir effectivement de faire une analyse bah, où elle en est aujourd'hui, comment elle est accompagnée, ce qu'il en est ressorti pour peut-être travailler davantage les entretiens finalement, le CV, enfin d'autres points quoi. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question,
Bah,
mais
les nécessités
ouais.
d'adaptation où on peut avoir différents catég enfin, différentes nécessités d'adaptation. Hein, le cas de figure que tu évoques fait écho au fait que, par exemple, on peut avoir des gens de bas niveau de qualification qui sont réfractaires aux tests, qui sont... Quand je dis réfractaires, c'est parce qu'en fait, ça les met dans une posture, enfin, dans une situation inconfortable. L'objectif du bilan, c'est de poser la personne dans une situation confortable, de confiance, qui va lui permettre de se sentir accepté dans sa singularité. Donc forcément, si quelqu'un vous dit bah « non, j'ai pas envie de passer les tests », je me permets de le rappeler, c'est pas une obligation, c'est une proposition, on n'impose pas les tests. Si la personne vous dit bah, « moi, non, en fait, moi, les carnets, bah, je sais pas utiliser, moi, ça m'est arrivé, hein, je sais pas utiliser... l'outil informatique, parce que ben voilà, vous pouvez avoir ce type de situation. C'est rare, mais quand même, ça arrive. Des gens qui n'ont pas d'ordi, donc qui font tout sur une tablette ou sur le téléphone, donc ça rend des trucs vraiment tout pourraves. Donc c'est quand même à questionner. Ça fait partie des choses qui sont à prendre en compte. Et comme tu disais, moi je pense que, enfin moi ça m'est arrivé d'avoir deux personnes qui n'avaient pas d'ordi. Il y en a une qui voulait aller sur un métier du secrétariat. Ah, clairement, ça a été le challenge. Je crois que j'en ai déjà parlé peut-être de cette situation. Bref, ça a été le challenge pour elle dans le bilan de compétences, de se mettre à un ordi. Elle s'est acheté un ordi, elle s'y est mise. Donc on a pris du temps autour de ça, plus que sur le contenu finalement à un moment donné de dans quelle étagère. Il y a eu un moment d'adaptation de la prestation par rapport. Alors je n'ai pas fait des cours d'informatique, mais en tout cas la prise en main d'un certain nombre de choses, quoi. Et du coup un bout de temps consacré à cet élément-là, parce que de toute façon c'était une montée en compétence pour cette personne, entre autres. Il y a des gens qui en recevant les carnets de réflexion vont se sentir un peu tétanisés parce que c'est comme si c'était les cahiers d'exercice, donc il faut bien rappeler qu'on n'est pas là dans une évaluation, enfin voilà, il y a des éléments comme ça. Donc ça c'est un cas de figure, entre autres. Marie, tu voulais rajouter peut-être, enfin tu voulais poser une question, ajouter quelque chose, je veux pas trop...
Oui, ajouter quelque chose par rapport à des personnes. Enfin, j'ai accompagné avant d'être avec Trajectoire une personne avec un petit niveau de qualif et des soucis de santé qui faisaient qu'il pouvait plus. C'était un gars qui bossait sur les chantiers depuis qu'il avait 14 ans. Il avait les genoux complètement bousillés. Et j'ai travaillé avec lui sur les intelligences multiples, un questionnaire d'intelligence multiple. Et du coup, là, ça a vraiment déverrouillé quelque chose chez lui et c'était hyper intéressant parce que il partait du coup bah il avait une idée déjà assez claire du projet vers lequel il voulait aller de grutier parce que du coup ça lui permettait de rester sur les chantiers, il avait les connaissances déjà qui pouvaient lui être utiles et le challenge c'était qu'il se sente capable de pouvoir entrer en formation en fait. Et en passant par ce questionnaire-là, ça lui a permis aussi de voir son intelligence sous un prisme hors français maths quoi. Et du coup, ça lui a permis aussi de se réapproprier le fait que bah oui, il avait des connaissances, il avait des compétences, il était intelligent, même si on lui a toujours dit qu'il arriverait à rien dans la vie. Enfin, c'est voilà, il avait entendu ça de ses profs, etc., au collège, machin. Et donc, il partait avec ce bagage-là, et ça a vraiment fait une bascule, quoi. Donc juste voilà. Après, le questionnaire des intelligences multiples, pour le coup, moi, je le travaille vraiment beaucoup plus maintenant avec les personnes avec un bas niveau de qualif, parce que souvent, les personnes avec un plus haut niveau de qualification, eh bien, vont le prendre plus comme une évaluation de compétences. Et du coup, des fois, c'est plutôt contre-productif. Donc, enfin, en tout cas, d'après l'expérience que j'en ai. Voilà, c'était
Et là,
juste
tu as un questionnaire du coup,
une question.
Marie?
Oui,
C'est un
j'en ai un.
questionnaire.
C'est un questionnaire que j'avais trouvé sur le net, qui avait a priori, enfin, où il n'y avait pas marqué de droit particulier, quoi. Moi,
Mais
j'en
ça,
ai un
ça
aussi.
date, hein, donc si vous avez quelque chose de plus actuel, ok.
Merci Marie, c'est une bonne idée, effectivement, je n'avais pas pensé à ça, donc je suis
Et
contente
j'en
de voir.
profite qu'on parle des tests pour dire, n'oubliez pas, alors on ne le précise peut-être pas assez, que le profil Pro 2, il a une version simplifiée qui s'appelle le CTPIR pour les personnes à faible niveau de compétence. Donc quand vous avez en face de vous un bénéficiaire que vous sentez en faible niveau de compétence et pas à l'aise, voilà, vous pouvez nous demander de passer, de changer le profil Pro 2 et non, c'est pas le CTPIR,
Non,
pardon.
c'est le
Profil
profil
compétence, pardon.
compétence.
C'est le profil
CTPIR, c'est pour le management.
compétence. C'est le profil compétence 2 à la place du profil Pro 2. Donc c'est un questionnaire qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup plus, les questions sont beaucoup plus faciles à comprendre. Donc n'hésitez pas quand vous sentez que c'est, voilà, que ça va peut-être être compliqué le profil Pro 2, à nous demander de basculer sur le profil compétence 2. Ça c'est aussi important pour le confort du, voilà.
Et d'ailleurs, moi, ça est arrivé pour ceux qui avaient besoin de le faire passer. Du coup, je leur propose de le passer eux-mêmes pour voir la restitution avant, parce que c'est un peu différent quand même. On est dans un vocabulaire très proche de celui du profil compétent, profil Pro 2, pardon. Mais néanmoins, la présentation est un peu différente. Donc, en fait, pour vous habituer à cette présentation, et de mémoire, alors peut-être ça a changé parce que Central Test, ils font des améliorations régulières. Vous n'avez pas de proposition de métier dans le profil compétence 2.
Non, je crois
Enfin, la
pas.
dernière fois que je l'ai fait passer, il n'y en avait pas.
Oui, je crois aussi.
Voilà.
J'ai mis dans le chat le questionnaire que j'utilise. Il y a les références en bas et j'ai vérifié. Il date de 2001, mais en fait, moi, je le trouve très à jour. Après, il y a plein d'infos sur la notion d'intelligence multiple en cherchant un peu sur le net, les TEDx,
Oui.
etc. Il y a vraiment beaucoup de
Ah,
choses,
c'est
quoi.
chouette. Merci Marie.
Et
Il me reste.
t'as le questionnaire et la grille de débrief derrière? Ou t'as mis que le questionnaire?
Non, j'ai pas de grille de débrief. Enfin, vraiment, il y a que le questionnaire. Mais si tu as autre chose, Sophie, ça peut être intéressant de comparer aussi.
J'ouvrirai ce que tu as et je vous enverrai parce que moi j'ai une grille de questions, une grille de débrief
Là, ça peut être chouette.
sur les intelligences multiples. Je les utilise beaucoup, enfin je les utilisais quand c'est. Beaucoup avec les jeunes en fait. Ça vient vraiment. Quand on est sur des processus d'orientation, c'est un questionnaire qui est super intéressant.
D'autres types de différences qui peuvent arriver. Bon, il y a la situation du handicap visible, ça c'est une chose. Donc ça, en règle générale, si vous avez des situations de cet ordre-là, normalement, Sophie et moi, enfin, je dis pas normalement, mais nous sommes les référents handicap du réseau Trajectoire, chacune dans notre structure administrative. Et donc, il faut nous demander, ben voilà, et nous, on se met en lien avec la GFIP, hein, donc la démarche, c'est ça, en fait, hein. Moi, il m'est arrivé d'avoir une fois une personne qui avait une déficience très élevée visuelle, donc voir sur des carnets en format A4, c'était pas possible. Donc là, pour le coup, je lui avais imprimé tout en format A3. Donc voilà, ça, c'est un type d'adaptation qui peut exister. Donc c'est assez exceptionnel, mais voilà. Autre type d'adaptation qui est de plus en plus fréquente, je pense, enfin en tout cas qui va s'accélérer, de mon point de vue, il y en a deux. C'est le déficit d'attention, donc la difficulté à rester concentré pendant 2 heures. Donc ben ça, nous on a un format où on fait des rendez-vous de 2 heures. Si vraiment vous sentez que c'est pas possible, ben, vous raccourcissez à 1 heure et demie avec l'accord du bénéficiaire, mais ça veut dire qu'il faut que vous ayez un petit comptage d'heures à côté pour voilà. Et puis ça multiplie du coup le bon rendez-vous quand même avec le bénéficiaire. Mais c'est une adaptation. Je crois que Audrey a fait ça de mémoire, mais je voudrais pas trop parler avec elle parce que dans l'auto-évaluation de la formation, elle avait marqué cela. Et puis, bah sinon, moi, quand il y a un déficit attentionnel, on va dire, je propose de faire une pause, en fait, dans les 2 heures. Hein, voilà. Donc, je le vois pas tout de suite, mais en général, je m'en rends compte. Donc, après, bah, du coup, je fais attention à pas coller des rendez-vous derrière, voilà, pour avoir un petit 10 minutes de pause. Et puis on peut avoir des gens qui sont extrêmement autres cas de figure qui va émerger, c'est les personnes qui sont extrêmement fragiles psychologiquement. Et alors je sais pas si ça fait partie de la différence, mais voilà, en tout cas ça fait partie des situations qu'on rencontre spécifiques, on va dire ça plutôt comme ça. Bon voilà, après là c'est vrai qu'on n'est pas des psychologues hein, dans notre casquette d'accompagnant en bilan de compétences. Donc, dans l'entretien préalable, avant la vente, on va dire, du bilan, moi, je pose toujours la question des gens qui sont dans des situations, qui nous disent être dans des situations de burn-out ou de post-burn-out ou d'arrêt maladie avant burn-out, notamment, hein, s'il y a accord du médecin, s'il y a un suivi thérapeutique, voilà. Donc, il y a une attention particulière parce qu'on ne peut pas se substituer et c'est important de le. De l'avoir en tête quand même. Moi, j'ose aujourd'hui poser cette question en disant tranquillement, vous n'êtes pas obligé de répondre parce que clairement, c'est indiscret et ça ne me regarde pas, c'est de l'affaire médicale. Néanmoins, par expérience, je sais que quand on fait un bilan de compétences et qu'on n'est pas accompagné, si on a des difficultés personnelles, ça peut bloquer le bon déroulement. Donc, pour un souci vraiment d'efficacité pour vous, dans ce moment-là précieux que vous vous offrez, prenez en compte l'aspect d'accompagnement à côté. Si c'est pas le moment pour vous de faire le bilan de compétences parce que vous n'avez pas cette, on va dire, solidité d'une certaine façon, je ne sais pas si je le dis comme ça, mais en tout cas cette sécurité pour vous, pour bien avancer, on se revoit dans 3-4 mois. Voilà. Ben, parce que franchement, alors pour le coup, Stéphanie Pira et moi, j'ai été confrontée à un cas où le type était complètement. Enfin, ça n'allait pas du tout. Il a arrêté en plein milieu, puis j'ai plus de son, plus d'image pendant 3 mois. Enfin, on s'est couru après, c'était compliqué. Enfin, et puis, pour le coup, par rapport à son estime de lui, ça n'a fait que venir confirmer ou alimenter son scénario d'échec, quoi. Donc, c'était pas du tout confortable pour lui, c'était même très compliqué. Et puis, bah, du coup, moi, ça n'a pas été confortable non plus pour moi du tout. Donc là, il y a vraiment un point de vigilance par rapport à ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sophie, mais.
Oui, c'est clairement sur la fragilité psychologique. Enfin, moi, quand elle est nommée, dite vue, moi, enfin, je suis alors peut-être un peu moins précautionneuse que toi, Marie, mais moi, je demande clairement est-ce qu'il y a un lieu thérapeutique, quoi. Voilà. Et s'il n'y en a pas, j'invite fortement à en trouver un en parallèle du bilan, voilà, parce qu'attention, voilà, c'est pas la. On est, alors, à part Marie Germont qui est psychologue, on n'est pas psy, on n'est pas thérapeute, mais enfin, faut faire attention à ce que l'on fait et savoir parfois travailler entre guillemets, en binôme avec. Enfin, on n'est pas en binôme, mais que la personne ait ses deux accompagnements en parallèle, c'est extrêmement fort. Et je reviens un petit peu en arrière sur la notion de handicap, parce qu'il y a quelque chose quand même qui est important, c'est que si dans le primo, vous découvrez une situation de handicap visible, non visible, et que vous n'êtes pas à l'aise, n'oubliez pas que dans l'équipe, il y a Christophe Pigeon qui a travaillé pendant plus de 10 ans à Cap Emploi, donc c'était son métier hein, de travailler à l'insertion dans le milieu professionnel des personnes en situation de handicap. Et donc, n'hésitez pas à passer la main. C'est-à-dire que si à un moment, vous ne vous sentez pas capé, ne vous mettez pas en difficulté, quoi. Si vous ne vous sentez pas suffisamment outillé ou prête, hein, parce que ce n'est pas forcément évident, hein, voilà, vous pouvez aussi orienter ces personnes-là vers Christophe. Alors, même si Christophe ne veut pas en faire sa spécialité, hein, mais voilà, il sait comment ça fonctionne et donc lui, il sera très à l'aise. Il sera aussi très à l'aise pour peut-être pouvoir dire à la personne que c'est pas d'un bilan de compétences dont elle a besoin, mais peut-être d'un autre type d'accompagnement parce qu'il connaît très bien voilà, les différentes instances qui œuvrent dans le milieu du handicap. Donc Voilà, n'hésitez pas à... En fait, ne vous mettez pas en difficulté, ne mettez pas non plus en difficulté la personne que vous accompagnez, parce que voilà, on ne peut pas... Il faut reconnaître parfois sa zone d'incompétence, et je pense que c'est important de la nommer quand on la voit arriver, et de passer la main à quelqu'un. Là, j'accompagne en ce moment, moi, une personne qui est alors à faible niveau de compétence. Elle doit avoir uniquement un BEP, je crois, de secrétariat. Elle a travaillé en usine toute son. Tout, elle a 50 ans aujourd'hui, toute sa vie. Et là, aujourd'hui, elle est en situation, elle est en phase d'être reconnue RQTH parce qu'elle a une maladie invisible hein, qui l'empêche vraiment de travailler. Et en fait, dans le bilan, on a plutôt cherché. Et aujourd'hui, en fait, elle ne sait pas si elle peut travailler ou pas. C'est-à-dire, elle ne sait pas si elle peut reprendre à plein temps, à mi-temps, sur quel type de travail. Donc moi, il y a un moment, je me suis dit, mais enfin, ça, il faut pas faire l'autruche et faire un bilan comme si c'était, enfin voilà, arriver sur un projet si finalement elle peut pas le faire, enfin, ça sert à rien en fait. Et donc on a cherché ensemble comment on pouvait avancer et comment je pouvais l'aider. Dans les recherches, elle est arrivée sur, alors elle est à Rennes, hein, donc sur le Patifro à Rennes, hein, qui est une structure qui accompagne les personnes. Et justement, elle rentre dans un parcours du Patifro où elle va pouvoir évaluer sa capacité à travailler, sur quel type de poste. Et donc moi, je l'oriente finalement, on ne travaille pas un projet, on travaille quels sont les domaines dans lesquels elle aimerait bien travailler. Donc on ouvre des hypothèses et du coup, pour le coup, on en ouvre plusieurs. Et après, elle ira valider ça avec le Patifro, qui sont des professionnels du travail en situation de handicap. Parce que moi, je ne suis pas. Donc voilà, il y a un moment, il faut savoir où est-ce que je m'arrête. Et là, je me suis dit, bah, je vais ouvrir des portes. Enfin, on va ouvrir des portes ensemble. Hein, et puis, je vais m'arrêter là. Et après, c'est des professionnels du handicap qui prendront le relais. Voilà, ils font toute une des tas de tests, des mises en situation, et ils évaluent son degré de fatigabilité, de douleur, etc. Et après, elle aura une réponse claire de où elle peut aller, quoi, et ce qu'elle peut faire.
Et du
Donc.
coup, je me permets, Sophie, de compléter ce que tu dis. Donc, je vous envoie dans le lien, je pense que vous le connaissez tous, de la GFIP. Donc là, c'est le lien de Bretagne, mais vous avez l'équivalent dans les Pays de la Loire et autres. Et moi, je vous invite aussi à vous mettre en fait, à partir du moment où vous êtes indépendant, vous êtes tous censés être vos référents handicap dans votre propre entreprise, indépendamment des activités de bilan de compétences, de sous-traitance avec nous. Et en fait, vous pouvez vous déclaré comme le référent handicap de votre propre entité, et ça vous ouvre droit à des modules de formation en e-learning gratuits. Donc moi j'en ai fait, donc par exemple comment on fait une reconnaissance RQTH, comment, enfin voilà. Et c'est assez bien fait. Ça ne remplace pas le travail des professionnels dont vient de parler Sophie, mais ça vous donne un premier niveau de connaissance ou d'attention, on va dire ça comme ça. Et du coup, ça vous permet aussi d'être identifié comme le référent de votre structure et donc d'avoir accès à le jour où vous devez contacter un personnel de la GFI pour faire un aménagement spécifique. Ou si par exemple vous accompagnez une personne qui va être reconnue inapte à son travail, mais qui va continuer à travailler dans la même entreprise, de lui donner les filons pour qu'elle puisse se renseigner en amont avec son auprès de ce, enfin avant qu'elle travaille de ça avec son employeur. Ben voilà, ça fait quand même, c'est de l'apport d'information. On ne se substitue pas aux professionnels, hein. Je pense clairement, c'est voilà, à part si vous avez une compétence spécifique. Mais en tout cas, ça donne quand même pas mal d'informations. Et ils sont, c'est assez ludique la façon dont ils travaillent, hein, au niveau de la GFIP. Enfin voilà, c'est très riche, hein, c'est très très riche, comme il y a beaucoup beaucoup d'informations. Voilà, ça c'est une invitation. Pour la partie effectivement prise en compte. Alors, selon Calliope, normalement, on ne doit plus parler de handicap, hein, dans le vocabulaire. Donc, voilà. La GFIP, c'est quand même les personnes en situation de handicap, donc c'est quand même compliqué. Mais normalement, on ne doit plus travailler pour justement, dans le cadre de l'inclusion, on ne doit plus utiliser le terme de handicap, on doit parler de situation avec des aménagements spécifiques. Donc ça, c'est le vocabulaire qui est normalement requis. Mais voilà. La GFIP, c'est quand même une source d'infos riche. Et puis il y a Cap Emploi, effectivement, pour
Ça
la recherche
n'existe plus
d'emploi.
Cap Emploi aujourd'hui.
Oui, ça a un autre, bah, ça s'est été englobé dans
On
France
travaille.
Travail, en fait. Ok, Sandrine, merci beaucoup. Bonne fin de journée.
Mais
Eh
c'est
bien,
vrai que dans la différence, il n'y a pas que, y a, enfin, vous l'avez évoqué, il n'y a pas que le handicap. Vous avez aussi les personnes, qui ont. Il y a aussi, on a parlé de personnes qui ont du mal avec les carnets, etc. Mais vous avez aussi des personnes qui vont très vite et qu'il faut nourrir peut-être davantage pour qui, enfin voilà. Et c'est ça aussi l'adaptation qu'on doit avoir. Il y a des personnes parfois qui, enfin, vous en avez certainement tous accompagné, hein, qui intellectuellement sont des rafales, hein, ou et voilà, et parfois on se dit waouh, qu'est-ce que je lui donne à manger, celui-là,
oui.
celle-là, parce que sinon au bout de 3 rendez-vous, ça va être compliqué, quoi. Donc la différence, c'est ça aussi, c'est quelle est notre capacité à nous adapter à quelqu'un qui n'est pas, c'est la courbe de Gauss, hein, qui n'est pas dans le haut de la courbe de Gauss, là où finalement la majorité des personnes se trouvent et où ça roule. Et là, c'est. N'hésitez pas non plus à échanger avec vos mentors ou avec Marie, moi, si vous faites face comme ça à un bénéficiaire qui. Ben, il fonctionne pas comme les autres, hein, il fonctionne pas comme ceux que vous avez déjà eus avant, et puis ben, vous savez pas trop comment faire. Voilà, on a pu vivre des choses similaires, on a pu entendre parler de choses similaires, on peut avoir des tips. Voilà, il peut se passer plein de choses, hein. Marie et moi, ça nous est arrivé, hein. Enfin, en tout cas, moi, Marie, je pense aussi, on en avait échangé, de faire un bilan de compétences sans aucun carnet. Parce que la personne, c'était juste impossible pour elle de mettre le nez dans les carnets. Bon, bah, il faut bien quand même avancer dans ce bilan. Et ce n'était pas pour un problème de j'ai pas envie de m'engager et de m'investir dans le bilan, hein. C'était pour un autre problème qui faisait référence à son passé. Et bon, bah, il faut bien avancer quand même, quoi. On ne peut pas dire à la personne, bon, bah, tu fais pas les carnets, bon, bah, tant pis. Voilà. Donc, tout ça fait partie pour moi de l'inclusion, de la différence des gens qui ne fonctionnent pas comme la majorité de ceux qui pour qui ça tourne et ça roule, quoi.
Stéphanie, je te passe la parole, mais juste pour compléter sur le type de, enfin, pour le cas où la personne n'arrive pas à se mettre dans les carnets parce que pour X et Y raison, moi quand même, je lui propose de les lire dans la mesure du possible et je lui demande pas de me les, enfin, si elle arrive vraiment pas à les faire, à ce moment-là, on les fait en séance en fait. Mais
C'est
c'est
ça.
moi qui guide du coup et donc elle n'a pas à s'immerger dans la hiérarchie. Mais d'ailleurs, c'est, je fais juste une petite parenthèse avec Sophie, c'est une des choses qu'on va probablement travailler, enfin, d'ici la fin de l'année. C'est de mettre peut-être plus de circularité dans le questionnement que de la linéarité dans la présentation, dans la forme du bilan. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très linéaire. Et en tout cas, ça, c'est mon envie à moi. Et justement, dans les cas de figure comme ça, je casse la linéarité du questionnement et je fais de la circularité, c'est-à-dire que je fais des schémas de présentation en rond. Pour que ça soit en étoile, en soleil, peu importe, en fait, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui fonctionnent mieux comme ça, en fait, parce que le principe de la linéarité, c'est que ça fait comme s'il y avait une hiérarchisation. Si je ne peux pas répondre à la question 1, enfin, si je ne réponds pas à la question 1, ça veut dire que je ne peux pas répondre à la question 2. Et en fait, ce n'est pas du tout ça le contenu de ce qu'on fait. Donc, du coup, le fait des fois de le présenter autrement permet de faire face à cette situation. Donc, bon, voilà, ça, c'est une des expériences que moi, j'ai vécues
Ouais.
et c'est assez intéressant.
Je complète, Marie, avant de passer la parole à Stéphanie. On parlait trop de l'attention, mais on entend beaucoup parler aussi de haut potentiel. Les hauts potentiels, ils ont souvent une pensée en arborescence. Donc ils n'ont pas une pensée linéaire, c'est-à-dire, et on le voit quand on les accompagne, hein, c'est-à-dire qu'ils font ça en permanence. Ou alors ils font ça, puis après ils font ça, puis après, bref, ça part en arborescence. Et c'est vrai que la façon dont est présenté les carnets, bon, enfin, je ne fais que compléter ce que vient de dire Marie, peut ne pas leur convenir. alors que les présenter, ne serait-ce que même physiquement présenter des questions en arborescence, peut les aider en fait à y aller en fait. Voilà, c'est ça qu'on essaye de travailler dans nos projets futurs. Stéphanie, tu peux enfin parler.
Oui, il n'y a pas d'urgence, mais bon, je voyais l'heure qui tournait. Je vais devoir vous laisser aussi parce que j'ai rendez-vous derrière. Juste, moi, ça me fait penser aussi à tous les dys, en fait, et notamment la dyslexie, dysorthographie. Et je me questionnais justement avant même hein, de me souvenir de ce thème de la réunion, là, enfin de l'atelier, si effectivement nos carnets étaient adaptés en termes d'accessibilité pour cette typologie. Alors, j'ai pas eu pour l'instant, moi, de personne hein, qui puisse en tout cas me faire penser à cette problématique, enfin, ou ces difficultés. Pour autant, il y a quelques mois, j'ai travaillé sur le sujet. Et effectivement, c'est peut-être un élément auquel il faudrait penser déjà en premier lieu, peut-être adapter si toutefois ce n'est pas le cas.
Après, alors, il y a certainement des choses qui peuvent être adaptées, mais comme on ne demande pas de rendu, c'est-à-dire en fait, on ne demande pas une restitution des carnets, enfin en tout cas.
Non, bien sûr.
Pour ceux et celles qui en douteraient,
Non,
hein,
c'est
il n'y a
bien
pas de
cadré, bien sûr.
restitution des carnets, je le redis, hein.
Clairement.
Le carnet est un élément personnel pour le bénéficiaire que vous
Bien
n'avez
sûr.
pas à regarder ni à voir, hein. C'est un guide pour lui pour mener l'entretien. Du coup, moi, je le présente toujours au premier rendez-vous, quand je repose le cadre. Je reparle de ce carnet qui n'est qu'un outil pour guider la réflexion et je le dis, vous avez la liberté d'écrire comme vous voulez. De faire des phrases, de mettre des mots. S'il y a des fautes, on s'en fiche. Si c'est pas écrit français, on s'en fiche. Voilà. Donc là, je fais descendre toute la pression du bien écrire, parce qu'effectivement, c'est pas ça l'idée. C'est pas ça l'idée. C'est de quoi on va parler après ensemble quand vous aurez réfléchi de votre côté. Et moi, j'avais quelqu'un une fois qui était très 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 mal à l'aise avec l'écriture. Voilà. Eh bien, cette personne-là, pas à chaque fois, mais de temps en temps, venait avec. En fait, il enregistrait ses réponses sur un dictaphone. Et quand il. Alors, il ne le faisait pas systématiquement à tous les carnets, mais de temps en temps. Et donc, quand il venait, c'est un monsieur, ben, à certaines questions, on écoutait ce qu'il avait dit au moment où il avait travaillé chez lui. Et après, ben, on avançait.
Oui, je pense que c'est une excellente idée. Après, il peut y avoir éventuellement une difficulté en autonomie, du coup, à la lecture surtout. C'est pas tant l'écriture, c'est plus la lecture, à mon sens. Et auquel cas, bah, je pense que j'adapterai mon accompagnement comme Marie l'expliquait. C'est-à-dire, bah, effectivement, on accompagne pendant la séance
C'est
et le
ça.
travail est peut-être moindre, du coup, interséance, quoi.
En même temps, je suis en train de me dire pourquoi on ne ferait pas une version audio. On pourrait très bien faire une version audio de
Ça pourrait,
carnet, hein, ça
Puis c'est
bon.
de l'amélioration continue aussi, pas de la méthode. Enfin, voilà. Bon, je pense qu'effectivement, ça pourrait être une idée.
Avec nos voix.
Ouais, et moi, on prendra des voix de canard, comme ça.
Voilà, moi aujourd'hui, on avait parlé des différences aussi qui peuvent émerger, c'est les noms, les personnes qui ne souhaitent pas être genrées. Alors ça, aujourd'hui, notre méthode, elle ne le prend pas du tout en compte, hein, clairement. Donc ça peut arriver, voilà. Donc là, ben, alors moi jamais, ça m'est jamais arrivé. Pour le coup, je pense que ça c'est un élément. S'il y a une personne qui ne souhaite pas être genrée, elle sera en mesure, je crois, quand même, de vous le préciser dès le premier rendez-vous.
Ouais, je pense que
Donc là, après. Là, enfin moi, j'ai pas de préconisation particulière, mais en tout cas, si jamais vous en avez connaissance dès le début, c'est très important qu'on le sache nous en amont, parce que comme notre message, notamment post-premier rendez-vous, c'est bonjour monsieur, bonjour madame, voilà, c'est une précaution à prendre, quoi. Oui, merci Stéphanie, merci beaucoup. Bon été.
Ça peut être aussi une piste d'amélioration par rapport. Alors, je n'ai pas du tout en tête hein, le site de trajectoire, mais juste moi par rapport à mon site pour mon autre activité, j'ai au moins une personne qui est venue me voir en disant, bah en fait, j'ai choisi de vous venir vous voir vous parce que vous avez un site écrit en écriture inclusive.
Ouais.
Et en fait, je l'avais fait de façon très spontanée, sans même en avoir conscience au moment où j'avais rédigé mes textes. Mais peut-être que ça peut être aussi un point d'accès ou d'accessibilité, de montrer en fait cette inclusivité dès l'écriture du site ou enfin après la documentation aussi peut-être à revoir. Mais c'est pas grand-chose à faire en fait. Et c'est vrai que ça peut faire vraiment la différence pour certaines personnes.
Je me demande si on n'avait pas déjà un peu corrigé tout ça là. En tout
Ça
cas, dans
serait
la
plus
méthode.
inclusif, c'est-à-dire qu'on a mis des E entre parenthèses, ou enfin, on
Ouais, c'est ça,
les
t'as
deux, mais on n'est pas en
tous
inclusif.
point ES, enfin, tu vois, t'as des choses comme ça. Moi, après, t'as pas forcément besoin d'aller beaucoup plus loin que ça, mais ça montre déjà
Je pense
cette
qu'aujourd'hui,
volonté, en fait.
on est plus sur des parenthèses.
Oui, c'est vrai. Vas-y, Gaëlle.
Je voulais rebondir ouais, par rapport à ça, parce que... Enfin, c'est un sujet aussi, hein, l'écriture inclusive dans les recrutements et en ressources humaines. Et en fait, il se trouve que parfois, avec l'écriture inclusive, eh ben, ça peut bloquer aussi les personnes qui sont, par exemple, qui ont une dyslexie ou autre, où la lecture va être beaucoup plus difficile. Donc,
Ah,
voilà. Moi, je suis partagée, hein, en tous les cas.
c'est clair. Oui, tout à fait. Et après,
J'ai
il y
pas
a
de
des.
solution idéale, quoi, mais non, il n'y a pas de
Merci de ton
solution
regard,
idéale.
Gaëlle.
Et là, je pensais vraiment au support, en fait. Voilà.
Moi, je crois que la force, dans ce notre force, là, pour le coup, c'est de montrer notre
C'est
ouverture
nous, voilà, exactement.
et de dire bah, écoutez, les supports sont les supports. Clairement, ils sont adaptés. À une situation, mais pas à la vôtre. Donc, qu'est-ce qui serait important pour vous qu'on fasse pour que ce soit le plus adapté? Voilà. Et puis de voir comment on peut faire. Bon. Donc, parce qu'en fait, la question, c'est pas de rejeter enfin, de rejeter la nécessité de l'adaptation. C'est au contraire de l'accueillir. Après, est-ce qu'on peut tout adapter? Moi, je suis assez d'accord avec toi, hein, Gaëlle. Moi, j'ai lu un bouquin. D'une féministe hein, qui s'appelle Titou Lecoq, qui est en écriture inclusive, bah, franchement, à la fin, j'en pouvais plus. J'étais
Ah
épuisée de lire ce bouquin.
ouais. Tout
Épuisée.
à fait.
Je ne suis pas particulièrement dyslexique, mais un petit peu. Et franchement, ça a été dur, quoi. Ça a été très, très fatigant. Alors, pour les gens qui sont très dyslexiques, qui ont une difficulté à la lecture, bah là, au bout de 3 mots, tu es perdu, en fait. Hein. Et donc ça se débat, hein, ça se débat effectivement. En fait, moi, voilà, enfin, pour conclure, de manière peut-être générale, comme ça on arrive à la fin de notre atelier. Après, bien sûr, s'il y a des remarques complémentaires, on peut continuer encore quelques minutes. Mais je crois qu'il faut poser dès le moment où on a la personne au téléphone la question, moi je la pose, hein, est-ce que vous avez un CPF? Enfin, avant qu'on fixe un rendez-vous pour être sûr que vous rentrez déjà dans les cadres. Est-ce que vous avez un CPF? Dans quelle situation êtes-vous? Qu'est-ce qui vous amène? Et puis, est-ce que vous avez besoin d'aménagement spécifique? Moi, je pose systématiquement cette question qui est dans le diagnostic, hein, dans la fiche diagnostic. Et puis après, je vais creuser au moment où j'ai la personne au téléphone, quoi. Après, enfin, la personne, pardon, en physique, au moment du primo. Et après, bah, c'est d'accueillir cette spécificité et puis de voir si on ne peut pas faire des aménagements avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui à notre disposition, bah, de solliciter peut-être effectivement des structures du type de la GFIP pour nous aider à trouver des idées, quoi. En tout cas, ne restons pas seuls. Enfin, s'il y a une conclusion, c'est face à l'accueil d'une situation spécifique, on va parler comme ça. Ne restons pas seuls, quoi, parce que je pense qu'on peut tous avoir des bonnes idées, des suggestions. Voilà.
Est-ce
Et
que vous
peut-être
êtes...
je vais conclure sur un dernier. Ah, pardon, Sophie.
Non, je voulais juste savoir si quelqu'un avait quelque chose à ajouter.
Ouais, on avait évoqué, ben moi j'ai une dernière chose, on avait évoqué le fait de faire une formation tous ensemble, premier secours en santé mentale. On n'a pas réussi à trouver de date commune. J'avais pas eu le temps de faire de mail au moment où on a constaté avec Sophie que c'était quand même compliqué de réunir tout le monde, enfin tous ceux qui étaient intéressés. Donc la préconisation, si vous êtes intéressé pour cette formation, c'est plutôt de la faire proche de chez vous, avec des gens que vous connaissez, qui sont formés. Voilà. À considérer que cette formation vous intéresse. Y a-t-il d'autres questions, d'autres marques? Sinon, on fait un petit moment de déclusion. Fanny nous a laissé aussi. Ça tombe bien, il est 13h15, 13h14 pour être précise. On a tenu dans le timing. Allez, un petit tour de table pour ceux qui. On peut arrêter dans le...
Oui, bien
S'il n'y a pas de
sûr.
questions, on arrête le.
J'arrête l'enregistrement.
Enregistrement.